d'emploi. Mode d'emploi.
Oui, bonsoir, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Vous êtes avec aujourd'hui avec l'équipe de AC1920. Bonjour Ludo.
Bonsoir.
Salut Christophe.
Bonsoir.
Gilles également au micro et puis bien sûr Claude à la technique. Comme d'habitude, après le coronavirus et puis effectivement cette épidémie qui a suscité beaucoup de temps partiel dans les emplois, énormément de chômage aussi, peut-être des dizaines de centaines de milliers de personnes qui seront plus à l'emploi dans les années, dans les mois qui viennent. Nous allons donc parler effectivement de la pauvreté qui va rebondir à cause du coronavirus, du RSA qui devrait pouvoir se faire pour les moins de 25 ans, et bien sûr de la dette tenue par la France évidemment, et savoir si elle peut la rembourser ou pas. Donc on verra ça tout de suite avec Ludo. Merci. Effectivement, la France, à cause de ce qui nous est arrivé ces derniers mois, sans dette, évidemment, mais pourra-t-elle rembourser sa dette et surtout ses intérêts ?
Alors, je tiens à dire qu'ici, dans cette émission, on n'est pas les gens qui aiment culpabiliser, parler de dette et culpabiliser les Français avec leur dette. Donc, en fait, je ne vais pas tout à fait parler de ça, mais presque, tu as raison. J'ai parlé d'un mot qui a fait florès, enfin de deux mots, qui viennent de notre bien-aimé président de la République, M. Macron, qui a dit « l'argent ne tombe pas du ciel », et dont le deuxième « il n'y a pas d'argent magique ». Attention. Là, donc, tout le monde est saisi d'un frisson, à l'idée de l'endettement qui a couru pendant le coronavirus, la crise du coronavirus. Donc, pour vous donner une idée, il y a eu 340 milliards d'emprunts. La France a procuré 340 milliards d'emprunts contre les 215 milliards d'avant la crise. Donc juste, pour rester dans les chiffres, même si c'est chiant, le budget en France juste de l'État, enfin les dépenses de l'État, c'est 338 milliards d'euros, hors justement remboursement de la dette. Donc ça fait un débit de 108 milliards. Et la sécurité sociale, donc c'est les retraites, l'hôpital, tout ça, ça coûte 510 milliards d'euros, c'est hors budget d'État, mais voilà. Donc c'est à la fois beaucoup et pas tant que ça, en fait, la question. Mais c'est effectivement beaucoup par rapport à ce qui a été pris. Puis vous savez, il y a ce mantra, ce chiffre magique de 110% du PIB d'endettement cumulé, je ne sais plus à combien on est, et donc qui fait trembler tout le monde. Alors il y a une remarque qui venait, alors évidemment, plutôt de partis politiques de gauche comme la France Insoumise, qui rappelait qu'en fait la dette, c'était toujours en réalité des dettes qui étaient échelonnées, dont le remboursement était échelonné sur l'année. Donc par exemple, c'était donc les 340 milliards d'emprunts récemment contractés, c'était à 0% sur 10 ans.
Ah oui.
Vous voyez, donc 0%, ça ne fait pas de charge de la dette, mais c'est sur 10 ans. Et donc le remboursement est allé sur 10 ans et puis recontracte de la dette. Et c'est un peu comme si, par exemple, Gilles, tu rembourses ta voiture ou ta maison de temps, de. Voilà.
Des mensualités, mais voilà. Sans payer les.
Oui, intérêts. Mais c'est surtout que tu rembourses tes mensualités sur l'étalement. Et donc quand on dit 100% du PIB, c'est pas tu ne vas pas rembourser tout de suite la totalité de tes 110% de tous tes avoirs, mais bien tu sûr. Vas étaler sur le temps. Et donc voilà, donc bien entendu que la dette cumulée n'est pas en soi une charge extraordinaire. Le seul problème, c'est effectivement la charge de la dette, c'est les intérêts qui eux courent tout le temps. Donc là, évidemment, les intérêts sont à 0%.
Ce qui est historique, apparemment, est-ce que ça a déjà été vu dans l'histoire des dettes à 0%?
Eh bien justement.
Je crois pas.
Alors le Japon peut-être s'en approche.
Ah oui, d'accord.
Mais justement, avec un mécanisme, le Japon, pendant la crise, était à 200% du PIB. Et c'est toujours un cas toujours très particulier. Il a vu passer la crise financière, ça ne lui a pas posé de problème, puisque c'est son épargne, en fait, son épargne personnelle qui a fait, l'épargnant de sa poste japonaise, en fait, qui a fait la dette et donc qui n'était pas soumis aux aléas du marché Alors d'accord. Que nous, on prend des imparables. Mais ce n'était pas mon sujet, encore une fois. Voilà. Et, mais enfin, quand même, vous me direz, on parlait d'argent magique, quand même. Hein. C'était ça le vrai sujet. Et donc, vous me direz comment ça se fait que la dette arrive à taux zéro. Donc, maintenant, c'est quelque chose que tout le monde sait. C'est que, en fait, depuis la crise de 2008, la BCE prête de l'argent aux banques. OK ? En échange, ou plutôt, leur prête, c'est pas tout à fait ça, c'est qu'elle leur rachète leurs créances qui étaient toxiques, pourries, voilà, que, disons, leurs emprunteurs ne pouvaient pas rembourser, donc elles fournissaient ainsi de la liquidité, et elles leur rachetaient moins les intérêts, à taux zéro, c'est-à-dire grosso modo, hein, c'est un échange, elle injectait ainsi de la liquidité dans les banques, et elle les passait dans son bilan. Elle les faisait disparaître dans son bilan. Et les banques, elles, avec cet argent neuf, prêtaient avec des taux d'intérêt aux États ou aux acteurs économiques.
D'accord. Vous
comprenez ? Et donc, c'est ce qui a provoqué tout ce phénomène de bulle à la fois spéculatif et le fait que finalement, c'est seuls les gros investisseurs qui profitent de l'argent qui vient de la BCE, puisqu'ils ont les moyens, ils ont la garantie pour rembourser. Et donc, typiquement, bah, par exemple, un promoteur qui a un gros capital, il peut effectivement bénéficier d'argent, de liquidité pour faire des opérations. Et donc, on pense que ça a contribué, par exemple, à la bulle immobilière. Et donc c'est comme ça que finalement on a redécouvert une forme indirecte de création monétaire. Il faut rappeler juste comme ça que ce système a été mis en place, c'est-à-dire d'éviter que les banques centrales prêtent directement aux États, donc depuis 1973, mais probablement aussi pour juguler l'inflation.
Bien sûr.
Et finalement c'est un système qui a relativement bien marché, puisque là vous voyez qu'on n'a pas vraiment d'inflation, donc on en reparlera. Et alors le truc c'est que là bah, on est passé un levier presque au-dessus, quoi. Alors évidemment pas sans résistance de la part des partenaires allemands. C'est que c'est qu'en fait donc la BCE rachète maintenant les créances
des États.
Des États,
oui.
Parce qu'effectivement, en période de crise, tout d'un coup, il pourrait y avoir de la spéculation. Et ce qui signifie que quand il y a de la spéculation, c'est-à-dire que grosso modo, c'est des gens qui vendent leurs créances, leurs obligations, hein, parce que on estime que l'État peut avoir des difficultés à rembourser. Et alors du coup, s'ils les vendent, c'est qu'elles valent moins, vous voyez. Et donc, si elles valent moins, ça veut dire qu'au moment où l'État réemprunte, les taux d'intérêt auxquels
augmente.
Il va emprunter vont augmenter.
C'est, ça.
C'est ce qui s'est passé en 2012, en fait, avec la Grèce. C'est-à-dire qu'on considère que non, tu ne peux pas rembourser. Et donc là, il n'y a qu'une l'arme absolue, c'est la BCE, qui est un investisseur institutionnel qui dit moi je rachète avec un monopole d'achat et je rachète de façon illimitée et de cette façon les taux d'intérêt restent plats.
D'accord.
Et que fait ensuite la BCE ? Eh bien elle encaisse la créance, l'obligation donc lui doit l'État.
Et elle reprête avec de l'intérêt après.
Elle rembourse les intérêts.
Elle rembourse les intérêts, pardon. Oui.
À l'État. Ce qui fait que l'intérêt est à taux zéro.
D'accord.
Et donc par ce tour magistral, on peut dire que on a renoué avec la création monétaire. La création monétaire à l'ancienne, où on faisait tourner la planche à billets, c'est-à-dire où, effectivement, la banque qui était assise à côté de l'État prêtait aux États et on faisait tourner la planche à billets, de façon inondée en liquidités. Et donc, après, après 30 ans de dogme d'austérité budgétaire, d'austérité salariale et de lutte contre l'inflation, c'est-à-dire l'un et l'autre étant liés à la lutte contre l'inflation, donc d'indépendance de la BCE, on se retrouve à découvrir la nécessité de pratiquer la création monétaire. Je rappelle aujourd'hui, la BCE possède un tiers des dettes souveraines des États européens. C'est beaucoup, hein,
c'est énorme.
Voilà. Mais pour elle, c'est pas si. Voilà, ça va, ça gère. Mais vous voyez, on parle de mutualisation de dettes, là, on commence progressivement. Et ça fait quand même 10 ans que ça dure. Hein. Et donc, voilà, vous allez me dire, là, il n'y a pas d'argent magique. Je vous rappelle, c'est les propos du président. Je suis désolé, mais il y a un risque d'inflation, quoi. C'est ce que t'as appris à l'école, tout ça. Parce qu'il y a un déséquilibre entre l'offre de la monnaie et la quantité de biens produits. Alors, c'est ça l'inflation, c'est-à-dire que quand il y a trop de monnaie, tout d'un coup, la valeur de la monnaie se déprécie par rapport aux biens en circulation. Et donc, il y a une augmentation.
C'est ce qui se passe actuellement aux États-Unis avec le dollar.
Alors, les États-Unis sont un cas à part. Et justement, alors oui, c'est à moitié étonnant. Mais en général, c'est l'inflation vient souvent quand il y a une surchauffe, en fait. C'est-à-dire que l'économie tourne suffisamment bien pour qu'à un moment donné, il y a une espèce d'emballement, en fait, hein, du crédit. Puisqu'en fait, on est dans une. Là, je parle de la création monétaire de l'État, mais on est finalement toujours dans une création monétaire, mais des banques privées qui en permanence donne des crédits. Donc il y a aussi un endettement privé, un endettement. Donc il y a toujours des masses, un endettement des entreprises, donc il y a de la masse monétaire qui circule, qui est quand même un peu virtuelle. Donc il y a toujours ce risque-là hein, de crise financière et de dépréciation. Mais là, on a un souci, c'est que l'inflation, on l'a pas vu poindre, même avant la crise, depuis X années. Au point que certains économistes comme Jean-Marc Daniel disent qu'on est dans une société, une économie qui ne produit plus de l'inflation du fait de la compétitivité de l'économie et de l'information des agents sur les prix, de l'information instantanée des agents. C'est un marché pur et parfait, tel que lui le décrit. Et donc, plus d'inflation. Et puis, qui dure quand même depuis un moment. Au contraire, en fait, se profile une crise qui risque de provoquer de la déflation, c'est-à-dire du fait en fait de la crise à venir, des faillites potentielles, et d'une chose plus angoissante hein, pour nos élites, c'est qu'en fait donc le Covid-19 a provoqué une épargne supplémentaire des ménages, donc des ménages protégés, je m'empresse de le dire, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui
ont de l'argent et qui mettent
voilà. Mais il y a des gens à l'inverse dont la crise, on en parlera après, on produit plus de pauvreté, mais les gens protégés, eux, ont pu continuer à épargner, et donc pour vous donner une idée, en 4 mois, l'épargne a augmenté de 80 milliards d'euros depuis le confinement, donc vous voyez, ça représente, avant c'était 6 milliards par mois. Vous voyez, donc là, 6 par 4, donc c'est là on est à 80, donc là ça fait vraiment beaucoup. Sauf qu'il y a une incertitude économique qui fait que les ménages ne consomment pas.
Oui.
Mais oui, puisqu'il y a peut-être un risque de crise. Et là, ça craint parce que si les consommateurs n'achètent pas ce qui est en circulation et qu'en plus il y a un risque de faillite, eh ben, on rentre dans une spirale de baisse des prix qui, en termes classiques, conduit les consommateurs à différer leurs achats parce que la valeur des produits sera moins élevée qu'avant. Et donc, l'urgence vient, en fait, de relancer la consommation. Relancer l'économie par la consommation. Et donc, la question aussi, dans ce cas-là, c'est de soutenir aussi les entreprises par des aides directes et donc ce que tente de faire le gouvernement et d'inciter les gens à consommer, mais là on ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc du coup l'inflation n'est pas une menace en tant que telle. Il n'y a pas non plus une menace de surchauffe de la dette en fait publique et de remontée des taux d'intérêt ou de perte de confiance dans la garantie des États. Et donc ce qui amène à la question suivante: que faire de cette dette puisqu'on ne rembourse aucun intérêt dessus?
Ben c'est de l'annuler peut-être.
Et puis qu'elle est passée dans le bilan. Et pourquoi maintenir une dette qui finalement est assez fictive? C'est-à-dire qu'effectivement, en annulant une dette, on peut considérer comme ça qu'on dévalue la monnaie, mais même ça, c'est pas sûr du tout, quoi. Vous voyez? Et là, tout le monde est embarrassé et tout le monde se regarde un peu comme ça. C'est-à-dire que la même personne qui vous explique, donc en l'occurrence Jean-Marc Daniel, qui expliquait il y a quelque temps qu'on était dans une économie où le marché était réellement efficient parce que les informateurs étaient informés et que les entreprises super compétitives et du coup qu'il n'y avait plus d'inflation, quand on lui dit dans ce cas-là, s'il y a un risque de déflation, pourquoi ne pas annuler la dette?
Exactement.
Et il y a une espèce de grand vide, en fait, parce que les économistes ne savent pas ce que ça peut produire. Ils essayent de dire que finalement, peut-être que dans le bilan, ça va dévaluer les actifs, en fait, des États, finalement, remplissent la BCE. Mais en fait, c'est pas vraiment sûr.
Je crois qu'il y avait un précédent, parce que Mitterrand, si mes souvenirs sont bons, avec les pays africains, par rapport au CFA, il avait annulé la dette pendant un moment, et puis après, c'était parti, je sais plus comment.
Et donc, tout ça nous renvoie à un vieux débat historique dans lequel je ne rentrerai pas ce soir parce qu'on n'a pas le temps, ça sera pour la prochaine fois. Mais un vieux débat sur, effectivement, faut-il à un moment donné annuler la dette et remettre en fait le jeu en route. Et un débat qui remonte au calende grec, littéralement, même avant et même aux Sumériens. Et donc il y a un article dans Atlantico qui vous parlait en fait de la valeur d'une créance, puisque une créance est toujours assise sur une production de richesse.
Exactement.
Et qu'est-ce qu'il arrive à un moment donné quand la production de richesse n'est plus garantie? Et ce qu'on peut dire là tout de suite, c'est qu'en fait c'est le message, c'est-à-dire que finalement on a payé pendant 2 mois les gens à ne rien faire et on a découvert que
ça marche aussi bien. finalement.
Que c'était possible.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire, en cas de situation exceptionnelle, c'était possible qu'il n'y avait pas. Le seul truc, effectivement, c'est qu'ils ne pouvaient plus consommer, puisque tout le monde, tout était à l'arrêt, mais qu'on pouvait créer de la dette sans qu'il y ait, a priori, de grand, que ce soit un effondrement total. Et ça, c'est un très mauvais message pour tout le monde, c'est-à-dire pour les employeurs, pour la société en général. Ce dogme qui dit qu'une dette doit être remboursée, ça c'est le dogme anglais, qui a remboursé l'intégralité de ses
dettes. Très libéral comme dogme.
Tout à fait, mais les Anglais ont remboursé l'intégralité de leurs dettes issues des guerres napoléoniennes pendant tout le 19e siècle, rappelait Thomas Piketty. Et c'est un dogme. Il faut rembourser sa dette, un dogme intangible. Il faut travailler, etc., etc. Et alors on oublie que dans certaines circonstances, et notamment par exemple après 45, on a soigneusement annulé toutes les dettes contractées par l'Allemagne et par le Japon. Et voilà. Et on reparlera sans doute du RSA. Il est peut-être possible, dans certaines circonstances, de payer des gens avec de l'argent magique.
Voilà. Merci Ludo. Tu voulais rajouter quelque chose, Christophe ?
Dans ton exposé, ce qui pose problème, c'est qu'effectivement, tu as démontré qu'on peut s'endetter et puis pas grand chose, mais cette situation elle embête énormément les banques, parce que les banques se nourrissent des intérêts de la dette. Oui. Or c'est un fait historique que la Banque Centrale Européenne prête de l'argent à zéro aux États, et la conséquence de ça c'est que t'as un responsable du MEDEF qui a hurlé récemment, je sais plus son nom, parce qu'en fait l'État garantissait les emprunts, mais Bruno Le Maire disait je vais vous prêter de l'argent pour soutenir les entreprises, mais à 3%. Alors l'autre, il disait, autant qu'on demande aux banques privées dans ces cas-là, puisque vous nous faites le coût des intérêts. Parce que quelque part, ça arrange l'État. Et ce qui dérange les banques, c'est qu'elles peuvent plus se faire leur beurre, puisqu'elles fonctionnent sur les intérêts de l'argent. Elles prêtent de l'argent pour en gagner plus par l'intérêt aux intérêts. Et ça, c'est très problématique pour elles.
Moi, je dirais que c'est pas seulement les banques. Je dirais que parce que
Et les produits financiers.
Alors oui,
mais le monde de la finance.
Vous savez que l'argument, alors ça, je cite mes sources dans le Monde diplomatique du mois de juin, donc c'est un article de Frédéric Lordon. Il faut trouver cette phrase magnifique de la cour de Karlsruhe, donc qui est la cour constitutionnelle allemande, qui est contre cette création monétaire. Et au nom de quoi ? C'est que en fait, la rémunération des épargnants est maintenue artificiellement bas vis-à-vis des taux d'intérêt qui devrait s'envoler. Donc en réalité, on a quand même des juges qui nous expliquent que l'épargne des gens, c'est quand même très important, et qu'il faut permettre à l'État de payer plus de produits pour que les épargnants puissent s'enrichir. Et donc l'objectif, c'est quelque part aux épargnants. Parce que
c'est mine de rien, ça embête la finance mondiale, ça, cette histoire-là. Ça enquiquine à mort.
Absolument. Parce
qu'ils n'ont plus leur beurre. Ils se nourrissent. La richesse de l'économie financiarisée, ce qu'on appelle le trading, et puis les positions courtes et positions longues, tout ce qui est du domaine de
la spéculation, en fait.
La spéculation. C'est basé sur les intérêts. Oui, quand il y a, en partie. Mais quand il n'y a plus d'intérêt et plus de consommation, c'est le bordel.
Je suis d'accord, mais enfin, depuis 10 ans, tous les investisseurs profitent justement de la manne de la BCE, c'est-à-dire que l'argent, que des liquidités affluent sur le marché, que les banques puissent mettre en œuvre des liquidités, ça permet des prêts, ça permet des achats. Il y a du pour et il y a du contre, et en l'occurrence, le contre, ce serait plutôt effectivement les bulles immobilières qui sont provoquées, et notamment les bulles immobilières, les bulles financières, et notamment la bulle immobilière, parce que c'est évidemment ce qui est plus rentable aujourd'hui.
Objectivement, peut-être qu'en France, je m'avance, j'en sais rien, mais peut-être que ça peut profiter aux Français, entre guillemets, j'aime pas cette expression, aux Français moyens, aux Français lambda. Parce que si les banques peuvent plus gagner de l'argent sur les intérêts des emprunts qu'elles font et qu'il y a trop d'épargne, peut-être que ça va obliger la bulle, notamment immobilière, quand tu vois les prix des loyers qui ont explosé en France les 20 dernières années.
Oui, c'est clair.
Ça, c'est positif, mine de rien.
Oui,
ça peut peut-être éclater, et notamment on pense à la bulle spéculative immobilière. On peut penser aussi à la bulle spéculative financière. Parce qu'il y a quand même eu pas mal d'argent qui sont rentrés au niveau des dividendes. Ça peut être intéressant.
Très bien, mais merci à tous les deux. On va écouter une petite chanson, ensuite on reprend la parole.
Yeah.
après cette chanson magnifique, nous revenons sur l'antenne avec donc Christophe et Ludo. Bonjour à tous les deux.
Ouais, bonsoir.
Gilles au micro, Claude à la technique. Donc c'est bien l'émission Mode d'emploi sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Si vous voulez nous appeler pour intervenir, n'oubliez pas de faire le 01 40 05 06 10, 01 40 05 06 10. Nous serons ravis de vous entendre et voilà de vous écouter sur vos convictions, vos avis sur la question. Très bien, on va reprendre cette émission avec Christophe sur, effectivement, l'autre côté. Il n'y a pas que les riches qui s'enrichissent, mais il y a également les pauvres qui s'appauvrissent. Et pendant cette période d'épidémie, les pauvres sont devenus plus pauvres. Et surtout, ça a touché les populations qui, jusqu'à aujourd'hui, étaient quand même assez protégées ou...
Ben, on vit la vie macronienne ou on la vit pas, j'ai envie de dire. Et on est dans la Macronie. Donc, la Macronie, c'est quoi? C'est qu'il y a un décret publié le 30 août dernier, donc il y a quelques jours, hein, au journal officiel, qui réduit la liste des personnes à risque qui peuvent bénéficier de l'activité partielle. Et ça exclut pas mal de monde. Hein, alors, par exemple, il y a Louise qui est atteinte d'hypertension, qui fait partie des personnes fragiles. Et du jour au lendemain, je ne fais plus partie des personnes et on m'envoie au travail, elle dit, alors que j'ai de l'hypertension. Et tout ça à cause de ce décret qui fait que y a la fin des placements en activité partielle. C'est passé de 7 critères à 11 critères, de 7 critères de vulnérabilité initialement à 11 auparavant. Donc ça concerne pas mal de centaines de milliers de personnes qui sont obligées de retarder, qui touchent plus le chômage. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que parmi toutes ces personnes qui touchaient le chômage partiel, on a des personnes qui faisaient des temps partiels. Donc, c'était la bouée de secours qui les aidait à tenir le coup. Et puis là, avec ce petit décret passé en douce, il y en a plusieurs milliers qui n'ont plus de chômage partiel en attendant quelques jours meilleurs. Mais ça nous évoque un peu tout ce qui est la notion de précarité et de pauvreté. Et là, je voudrais évoquer avec toi tout ce qui s'est passé ces 15 dernières années, parce que on est en Macronie, mais avant on était en Hollandie, hein, on a été en Sarkozy. Et ensuite...
Tu veux dire que t'as pas trop vu la différence, quoi.
Ouais, voilà. Et là-dessus, il y a récemment un rapport de l'Observatoire des inégalités qui dit la précarité, elle touche de plus en plus d'enfants et de jeunes adultes. Et puis, la situation, évidemment, elle s'est aggravée depuis le début de la crise sanitaire, hein, parce qu'il n'y a pas que le secteur de la restauration qui en pâtit, hein, ça on voit, et avec les cafés qui ferment, il y a toutes les entreprises, hein, globalement. Donc, aujourd'hui, la précarité, c'est-à-dire que le fait qu'on ne soit pas en contrat à durée indéterminée, en âge de travailler, en contrat à durée indéterminée, enfin, avec un niveau de revenu qui est au-dessus du seuil de pauvreté, qui est de 812 euros, je crois, pour une personne seule, à peine incluse, ça a augmenté de 43% entre 2002 et 2017, ce qui est énorme. C'est-à-dire qu'en gros, on a moitié plus de gens qui sont pauvres, hein, paupérisés. Donc, il faut savoir que ça s'explique le fait qu'entre 1990 et 2015, c'est en 25 ans, une génération. Donc ça, c'est des données statistiques qui tracent des phénomènes, des tendances lourdes de la société. Ça s'explique que le nombre de familles monoparentales, d'experts et d'ouvriers isolés, a explosé. Ça a doublé en 25 ans. C'est-à-dire que beaucoup de femmes, généralement moins payées que les hommes, se retrouvent livrées à elles-mêmes avec leurs enfants. Notre ami et camarade Odile n'aurait pas dit mieux.
Oui.
Ah oui, non, mais c'est une réalité qui est désormais chiffrée et actée. Et parallèlement à ça, le fait de ne pas avoir également le statut de la nationalité française engendre un marché noir du travail, et toute une paupérisation différentes vagues migratoires qui arrivent en France. On est toujours dans la même situation après le coronavirus, mais c'est encore plus fort. C'est-à-dire que les moins diplômés, les 18-25 ans, n'ont pas le droit, sauf rares exceptions, aux minima sociaux.
Oui.
Il y en a un million d'entre eux, c'est énorme, hein, un million d'entre eux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Mmh. Hein. Par rapport à ça, ce qui veut dire que pour ces jeunes dont des étudiants, il y a des moyens pour vivre et se loger, la misère étudiante n'est pas un délire. Hein. Cette dégradation au niveau de la pandémie, pour vous expliquer la chose, c'est que, par exemple, en 2008, au moment de la crise financière, hein, la fameuse crise spéculative, parce que c'est une crise spéculative, ça avait principalement atteint les 30-49 ans. Hein. Et puis, le nom, sauf que là, avec du recul et la pandémie, on constate qu'aujourd'hui, entre 2005 et 2015, pour les 50-64 ans, donc les seniors qui n'ont pas encore atteint l'âge de retraite, tu sais le nombre de personnes qui sont passées sous le seuil de pauvreté, combien ça a augmenté ?
Je sais pas, 25% d'augmentation ?
Près de 60%.
60% ? Non.
C'est énorme.
Ouais. C'est énorme.
Statistiquement, en termes de... C'est-à-dire qu'en gros, tu avais 100 000 personnes qui étaient en seuil de pauvreté entre 50 à 64 ans, selon les statistiques de l'INSEE, hein, et de 100 000, tu es passé à peu près à 160 000 personnes en 15 ans.
En plus, tu veux dire.
En plus, en 10 ans.
360 000, d'accord. Ah
ouais. Non. T'as pas compris. Statistiquement,
oui.
Au départ, en 2005, tu avais 100 000 personnes âgées de 50 à 64
ans qui étaient dans la pauvreté, oui.
Dans la pauvreté, hein, 100 000, pardon, un chiffre de 100 000. Et maintenant, pour ce même chiffre et même,
le même
tranche d'âge,
oui.
On est à peu près à 160 000 personnes.
D'accord.
Donc 60 000 en plus.
60 000 en plus, ça fait pas 60%. Oui, mais bon.
Ça fait 57% en plus par rapport aux 100 000.
57%.
Voilà.
Mais après, j'ai juste une remarque, c'est le taux de pauvreté. C'est aussi un calcul plutôt d'inégalité. C'est-à-dire que le seuil du taux de pauvreté augmente régulièrement, oui. Puisque c'est une mesure de l'écart des richesses. Donc, ça veut dire qu'aussi, il y a des gens qui s'enrichissent. Enfin, ou que naturellement, on s'enrichit. Ben voilà, mais il ne reste pas moins que c'est quand même significatif.
Oui. Mais je croyais que le niveau de la pauvreté, c'était 1000 euros. C'est tombé à 860 euros ?
Non. C'était oui.
C'est 800 en 2018.
Sachant que sur Paris...
L'INSEE a toujours 2 ans de retard.
Oui, voilà. Sachant que sur Paris, avec 862 euros, on ne vit pas.
Ah bah c'est clair.
Oui c'est
clair.
Ça, c'est qu'en fait le taux de pauvreté mesure des revenus, mais en fait il mesure pas un pouvoir d'achat. Donc donc effectivement en fait c'est très relatif, ça mesure une répartition de revenus, mais ça dit pas si on peut vivre ou pas avec.
Mais parce que Ludo, tu te disais tout à l'heure que pour éviter la crise, il fallait relancer la consommation, ce qui est normal, tout à fait normal. Mais pour
c'est ça, surtout à cause de l'épargne, oui, à cause d'épargne, oui, tout à fait. Oui.
Mais pour ça, il faut donner de l'argent aux gens qui n'en ont pas pour le coup, pour qu'ils puissent consommer.
Alors, c'est tout le problème.
C'est tout le problème du revenu universel. Tout problème. Donc là récemment, il y a Stéphane Troussel, président du département de Seine-Saint-Denis, qui a réagi en disant ben c'est quand même pas normal qu'on ait plein de 18-25 ans qui n'ont pas de revenus minimaux sociaux garantis. Et donc lui, il est pour l'extension aux moins de 25 ans du revenu social et universel. Sauf que là, on va revenir sur le débat du revenu universel, hein, le revenu universel d'activité.
Qui a déjà eu plusieurs noms différents.
Oui, alors ça a été expérimenté en Allemagne, etc. Il y a deux conceptions du revenu universel d'activité. À votre avis, à la base, c'est quel courant porteur qui est pour le revenu universel d'activité ?
En fait, il ne me semblait pas que... Je crois que le revenu universel d'activité, au départ, c'est vraiment le truc de Macron ou de Marche plutôt, c'est-à-dire qui consiste à associer une activité au revenu de base, qui en plus, voilà, ne sert. Par contre, le revenu universel, c'est un revenu où t'es pas obligé de travailler.
Attendez, l'idée du revenu universel, c'est quoi ? À votre avis, ça vient de qui ?
Ben, il y a deux courants, il y a les libéraux y a d'autres qui sont de gauche et qui l'appellent pas tous forcément comme ça.
Alors le revenu universel, parce que qu'on l'appelle activité ou pas, en fait les libéraux sont d'accord pour donner un minimum d'argent à une personne qui n'a rien pour qu'elle puisse consommer. Mais il y a deux contreparties. La première contrepartie, c'est que ce minimum sert aussi de levier pour le coût du travail lorsque la personne va travailler ou va faire une mission de travail. C'est-à-dire,
absolument.
Vous avez votre revenu universel, je vous donne tant en plus.
Et je crois même qu'aux États-Unis, c'est devenu plus ou moins populaire parce que les salaires pendant une période étaient tellement bas qu'à la limite, on s'est dit, finalement, c'est une façon de compenser les insuffisances des entreprises.
C'est la manne publique qui dit, je redonne un peu d'argent pour pas que les gens se révoltent. Sauf qu'on te met dans une case.
Ouais.
Donc en fait, le piège, c'est de la stigmatisation.
C'est une trappe à pauvreté
parce que, en gros, c'est comme tu as ton revenu universel qui compense, ferme ta gueule.
C'est ça, oui, sûr.
Et sans compter qu'il peut y avoir, un coût supposé pour le budget selon les libéraux, ça peut avoir une incidence sur le service public. C'est-à-dire qu'on peut, ça peut se payer en termes de, on a donné ça déjà à tout le monde en plus. c'est universel. Et donc on peut baisser la qualité des prestations des services publics sans le dire, en fait.
Hein. Bien sûr, bien sûr.
Mais absolument. Et ça, c'est la stratégie des libéraux. C'est pour ça que des gens comme Macron sont pour. Parce que comme ça, ils pourront dégraisser au niveau de l'État des collectivités. Le revenu universel, en fait, c'est un... C'est, on donne
donc ça devient un piège à la limite.
Ça devient un piège.
D'accord.
C'est pas pour les libéraux, c'est une trappe pour voter, pour baisser le coût du salaire et afin que
le coût du travail.
Le coût du travail.
C'est pas
le coût du travail afin que les entreprises et le capital.
Qui est déjà fort bas dans certains pays anglo-saxons.
Voilà, voilà, voilà déjà. Absolument. Et donc moins de prestations, parce qu'on vous donne un minimum, fermez votre bouche. Donne un minimum, ferme ta gueule.
Donc ils vont donner 1200 euros aux Allemands, là, à 100, je sais pas combien d'Allemands, mais.
Ah non, c'est pas 1200, je crois.
Non. Si, si.
Non,
si,
mais après, il y a l'autre conception, quand même.
L'autre conception qui est quand même plus intéressante,
consiste à donner systématiquement à partir. Qui s'appelle universel, et donc qui est vraiment universel, c'est-à-dire à ne pas faire de différence.
De 18 à 3 à tout le monde, en fait. Hein.
Voilà, et qui permettent, en fait, et même dans certains cas, pousser jusqu'à l'extrême, parce que là, on parle de revenus. Mais finalement, par exemple, Thomas Piketty, dans son dernier livre, il était plutôt sur une épargne universelle, enfin, c'est-à-dire au sens où on commencerait. Ça dit avec un capital de temps qui permettrait
de pouvoir
à chacun
épargner,
de faire, voilà, et de faire de réaliser des projets. Et ce que je veux dire, c'est que le revenu universel, d'une certaine façon, ça pourrait effectivement encourager une forme d'autonomie chez les jeunes, puisque c'est là que ça se situe. Et d'un autre côté, en fait, ça devrait garantir, enfin servir de filet de sécurité. Tout nous, on parle assez de revenus décents, tout ça, et de trappe, effectivement, qui permet à la fois de se libérer de la contrainte, en quelque sorte, du chantage, en fait, des bas salaires, en fait, hein, et de l'exploitation par les petits travailleurs. Aujourd'hui, quand on parle d'exploitation, finalement, on parle de l'exploitation du fait des petits CDD, des petits jobs à temps partiel. C'est ça, finalement, c'est la pression du marché du travail.
Oui.
C'est devenu ça, c'est plutôt du chantage absolument. À la précarité.
Et par rapport à ça, c'est que, par exemple, le revenu universel, donc dans la version, disons, des idées plus humanistes et progressistes, c'est un capital qui est donné sans aucune contrepartie. Et on n'a pas le droit de jouer avec ça au niveau du coût du travail et du salaire. C'est pas du tout la même conception.
Oui, mais dans cette conception,
l'État intervient forcément dans la fixation des salaires.
Et alors, exactement. L'argument, l'État intervient dans la fixation des salaires, et l'argument, il est de dire, vous avez financiarisé, vous avez créé un système basé sur le dividende, donc l'apport de monnaie, d'argent sur les produits et le coût du travail créé, il est tout à fait normal.
Qu'ils soient redistribués pour ceux qui n'ont pas de travail,
qui n'ont pas de travail et qui ne produisent pas de richesse, pour qu'ils aient aussi une place dans la société. C'est une autre logique. C'est on a d'un côté, si on a un côté,
c'est répartir les gains de productivité.
Absolument. Si d'un côté on a des dividendes, hein, de l'argent pour ceux qui ne travaillent, de personnes qui reçoivent de l'argent, de la richesse économique produite en n'ayant rien fait, il est normal que des personnes qui n'ont pas de statut dans le CIVE et pas de travail aient une contrepartie.
Bien sûr.
C'est deux conceptions totalement différentes. Je dis ça parce que le revenu universel d'activité, ça fait partie des plans d'Emmanuel Macron en 2021, voire 2022, pour lisser tous les acquis sociaux, notamment la location adulte handicapée.
Oui, bien sûr, c'est pour remplacer.
C'est un grand débat.
En fait, c'est fusionner.
Oui, fusionner.
C'est la fusion de tous les minima sociaux. Hein. Ça va être une baisse globale.
Oui.
On n'a pas le revenu d'activité, le RSA, revenu de solidarité active aujourd'hui, c'est, si je ne m'abuse, 493 euros pour une personne seule.
Seul, oui.
On ne va pas donner 800 euros à tout le monde du jour au lendemain. Il n'y aura pas d'augmentation.
Mais justement, dans cette conception plus ou moins gauchiste dont tu parlais, il y a quand même plusieurs courants aussi. C'est-à-dire qu'il y en a qui défendent l'idée de donner de l'argent à tout le monde, quel que soit leur salaire, quel que soit s'ils travaillent ou pas. Etc. Il y en a d'autres qui pensent qu'il faut donner en priorité de l'argent à ceux qui n'en ont pas pour lancer la consommation pour cela. Et après, pour ceux qui travaillent, c'est un barème selon les salaires, etc.
En fait,
etc.
Moi, je le verrais, mais bon, on a le droit d'avoir chacun nos idées, comme effectivement un capital quand tu commences dans la vie. C'est-à-dire que je ne vois pas l'intérêt, par exemple, de le donner. Vous savez qu'il y a quand même une forte inégalité de patrimoine entre
absolument,
générations.
Absolument.
Et effectivement, qu'à la fin de sa vie, quand on a réussi, quand on a installé. Et donc, le fait de l'imposer sur les classes, les jeunes classes d'âge, qui sont les plus exposées aux chômage, qui sont les plus exposés aux accidents de la vie, et en tout genre, hein, je veux dire, aujourd'hui, il y a des statistiques sur le nombre de... Alors, quand on dit sans domicile fixe, c'est impropre, mais enfin de gens qui ont des accidents de logement, de jeunes de moins de 25 ans qui ont des accidents de logement, c'est, enfin, ou qui à un moment se retrouvent sans rien, c'est effarant. Et donc voilà, donc c'est-à-dire que si c'était quelque chose qui était imposé, il devrait être imposé effectivement à sa majorité, où vous recevez un capital qui va vous permettre.
Mais seulement si tu es dans la, seulement si tu es dans la pauvreté.
Ah oui,
je vois pas ce qu'il y a un truc. Juste
alors
un truc
du coup, il est plus universel.
Oui, c'est ça le problème. Alors, c'est-à-dire que c'est universel, mais avec des possibilités de plancher.
Voilà. Alors il y a une problématique par rapport à ça. Parce que
je reviendrai sur le sujet parce que j'ai un truc qui me
Oui, mais il y a alors d'un autre côté dans les idées plus nationalistes, il y a l'idée donc de Monsieur Piketty qui est pas du tout nationaliste, qui est donc le capital qu'on verse pour pouvoir monter une affaire, c'est payer ses études, son logement, enfin bref.
Commencer sa vie avec un capital.
Avec un capital. Mais il y a une autre problématique de fond sur la notion de revenu universel, hein, c'est que l'être humain est l'homme est un loup pour l'homme, j'invente rien. Et il faut savoir que par exemple au Mali, il y a un ministère pour récupérer le plus d'aide sociale des autres pays. Donc le RSA, par exemple, ça devient une monnaie d'échange dans ce pays-là par rapport à ça, etc. Et ça, c'est fréquent. Et ça n'en existe. Cette notion d'argent public français ou européen, parce qu'il y a des aides sociales dans les autres pays, qui est utilisée pour un mieux vivre dans les pays africains, c'est pas un mythe, c'est une réalité socioculturelle. Qui est dérangeant.
Christophe, c'est quand même c'est un peu marginal.
Non, c'est pas marginal.
Je veux dire, par rapport à la somme des gens qui touchent le RSA, excuse-moi, les Maliens qui touchent le RSA et qui sont récupérés par le ministère au Mali, c'est quand même pas, ça représente pas des masses.
Non, mais je veux dire, c'est un système qui est mis en œuvre, etc. Oui, attention, hein.
Je veux dire qu'on va vendre son RSA.
C'est ça.
Toucher son RSA, on va le vendre pour jouer et boire.
Non, mais la question.
La nature humaine, c'est comme ça.
Qu'il y ait des filous, ça, on le sait fort bien. Il y en a partout dans tous les pays du monde. Mais la question est quand même plus générale, c'est-à-dire que, enfin, plus, à mon avis, plus importante, c'est de donner les moyens aux gens qui sont dans la difficulté de pouvoir survivre, c'est-à-dire un logement pour les SDF. Un revenu minimal de base, je dirais pas universel parce que je suis pas d'accord
avec lui. Un revenu, c'est un dû. Oui, un travail, c'est un droit.
Tout à fait. Donc tu vois, c'est ça qui est important.
Mais enfin, là, tu conditionnes en fait la notion de revenu universel justement simplement à une catégorie et donc à une condition de revenu. Alors que l'idée de départ, c'est justement qu'en fait, quelle que soit ta condition sociale, et pour favoriser l'autonomie des jeunes, les jeunes qui arrivent à une certaine classe d'âge, à leur majorité, disposent. Alors, effectivement, ce n'est pas le revenu universel. C'est le capital, effectivement, universel. Dispose d'un capital ou d'un revenu au moment où il rentre en activité et d'un revenu qui est, tu vois.
Mais Ludo, il y a quand même une question qui se pose, quand même, qui est de l'ordre de un enfant qui va avoir ses 18 ans, dont les parents touchent tous les deux 15 000 euros
parents,
par mois.
Mais peut-être que ses parents ne lui donnent pas d'argent. Qu'est-ce que t'en sais?
Oui, mais il va hériter un jour ou d'autre.
Il hériterait peut-être à 50 ans.
Oui, c'est là où je fais la notion de revenu universel qui doit être conditionné. Toi, tu veux.
Conditionné par quoi?
Le niveau de ressources des parents.
Je suis pas d'accord. Moi, je viens de dire que le niveau de ressources des parents ne détermine pas l'autonomie de l'enfant par rapport à ses parents et le chantage que peut exercer la pression sociale en fait que peut exercer ses parents sur à la réussite sur ses enfants. C'est possible.
Tu as raison si tu l'appelles effectivement universel, mais si tu l'appelles plus universel.
Mais c'est pour ça que je dis que je suis pour le revenu universel.
D'accord, tu es pour. D'accord, très bien.
Alors, je m'excuse, je vais faire l'avocat du diable, même si ce que je vais dire, je ne le pense pas. Je vais faire mon Éric Zemmour en créant un revenu universel sans conditions de ressources et sans, critères socioculturels, tu fais un appel d'air au niveau des pays émergents et des plus modestes pour attirer les populations les plus fragiles sur le territoire, sachant qu'elles n'auront ni qualification, ni possibilité durable.
Non, parce que, mais mon cher, il y a un truc qui, s'appelle.
De s'insérer. C'est ça qu'on va te balancer.
Oui, alors écoute, moi, ces arguments anti-immigration, enfin bon, voilà. Mais la réponse, elle est simple. C'est qu'il y a des ayants droit.
Oui.
Et les ayants droit, eh ben, si tu les définis, bah oui, c'est-à-dire, voilà. Alors effectivement, voilà. Est-ce que c'est les gens d'origine française? Est-ce que...
Eh ben voilà.
Oui, et parce que c'est la collectivité qui paye. Alors tu comprends?
Absolument.
Voilà. Donc, du coup, ben, l'immigration. Alors évidemment, tu n'empêcheras pas comme ça, de toute façon, de faire de l'Europe la promesse d'un avenir meilleur d'autres pays qui sont en difficulté, en soi. Mais voilà, si
donc,
tu conditionnes le progrès social à la. Non, je ne suis pas d'accord. Si le progrès social à la misère du reste du monde, ben, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faudrait s'aligner sur la misère du reste du monde pour qu'il n'y ait pas d'immigration.
Donc tu es d'accord pour qu'il y ait un revenu universel pour des ayants droit.
De toute façon, c'est une communauté.
Je vais exprès de faire
la communauté politique. Donc de toute façon, il y a une communauté à la base qui contribue. Et donc elle contribue effectivement. Alors effectivement, il s'appelle revenu universel de façon impropre, mais c'est-à-dire que dans les limites où il peut contribuer, et donc en l'occurrence les limites, bah, c'est sa population qui est sur son territoire.
Oui. Point. Très bien. Merci à tous les deux pour ce débat fort joyeux hein, pour le coup. On va s'écouter une petite chanson, Claude, s'il te plaît. Ensuite on reprend la parole. Merci.
Je rentre chez moi le soir, je me lave les pieds sans retard et j'enfile mon pyjama rayé pour aller me coucher. Sitôt que je suis des feuilles, le soir dans mon lit.
Et oui, alors là, c'est une chanson extra, c'est Dans mon lit. Ça a été écrit par un chanteur Dada, c'était donc Boris Vian, et c'est le groupe Debout sur le Zinc qui chante cette chanson. On fait un petit clin d'œil à Boris Vian, qui nous
tout
a quitté il y a bien longtemps déjà, mais voilà. Donc on reprend cette émission, c'est l'émission Mode d'emploi sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Vous avez un numéro de téléphone pour intervenir, c'est le 01 40 05 06 10, 01 40 05 06 10. Je suis comme d'habitude avec Ludo et Christophe. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonsoir.
Je m'excuse.
Bonjour à Claude pour la technique. C'est également Gilles au micro. Tu voulais dire quelque chose, Christophe?
Ah ouais, mais j'ai puni parce que j'ai fait mon Zemmour.
C'est pas très bien là, tu seras puni, voilà.
D'accord.
Je
croyais qu'à la gauche,
tu auras droit. Petite fessée cunie bientôt après l'émission.
La punition, ce sera d'assister au meeting, au prochain meeting de Marine Le Pen, ou alors de taper tous les discours effectivement de Zemmour. Tu taperas le livre de Zemmour.
Non, c'est illisible.
Là, c'est cruel comme châtiment.
C'est très cruel.
Quel livre?
Je sais pas, son dernier best-seller.
Oui, voilà, déjà rien que le titre.
Il le connaît en plus.
Ah oui, en plus, il l'a lu. Tu l'as acheté en plusieurs exemplaires.
Bon, d'accord.
Non, pas du tout.
Je propose de changer de sujet parce que.
Bon, alors on va.
Non, mais celui que tu sautes, parce que j'ai fait mon Zemmour.
Voilà.
Bon, on va reprendre l'émission, s'il te plaît, Christophe, avec.
Ça va mieux.
Avec toi,
ça m'a fait tout drôle.
C'est vrai.
C'est une drôle de sensation.
La prochaine fois, tu feras ton Mélenchon, je préférerais.
Non, mais alors j'ai fait mon Zemmour parce qu'en fait, là, j'ai un truc de valeur actuelle, c'est affreux.
Non mais c'est bon Christophe. Tu peux me dire pourquoi les gilets jaunes vont pourquoi il y a un rebond des gilets jaunes bientôt là pour
lui? Effectivement, d'après donc Valeurs Actuelles Zemmour, il y aurait on craint énormément au sein de la Macronie un rebond des gilets jaunes, notamment au cours de la manif du 12 septembre.
Ben, c'est Valeurs Actuelles qui craint un rebond des gilets jaunes. Ah, selon lui, d'accord, la Macronie craint. Oui, bon. Mais j'aime bien crier au loup. Hein.
J'ai dit que je faisais mon Zemmour 5 minutes, c'est terminé maintenant. Donc, ces braves gens, hein, très, très progressistes, très humanistes, expriment que dans leur journal qu'ils attendent un retour explosif du mouvement. Alors, ils expliquent ça parce que le PIB français vient de connaître une chute de près de 14%, que le taux de chômage s'établit désormais à 7,1%, mais que la baisse risque effectivement d'être très courte durée, et qu'il convient de souligner depuis le début de la crise que les suppressions d'emplois se sont accélérées en France. Par exemple, à Accenture, 25 000 postes devront sauter. Il y a deux jours, le 27 août, Figeac Aéréo, sous-traitant dans le Lot, a annoncé d'une grande truc d'automobile et d'aérospatiale, a annoncé la fermeture de 320 postes. À Besançon, le bijoutier Mati fera disparaître 54 postes. Chez Air France, on prévoit 1000 postes minimum à disparaître. Ben, vu ce qui s'est passé dans le trafic aérien, c'est un peu malheureusement logique. À Angers, le constructeur Scania a prévu de supprimer 5000 postes et la liste s'allonge. Et donc, bon, bah, effectivement, là, il y a des conséquences qui risquent d'être dramatiques. Et pendant ce temps-là,
qui s'annoncent.
Et pendant ce temps-là, on nous a dit, alors que donc la précarité, la pauvreté, le pouvoir d'achat vont baisser et tout ça et toute la pauvreté, excusez-moi, va augmenter. Pendant ce temps-là, on nous annonce quoi ? Que la réforme des retraites se fera avant la fin du quinquennat, affirme le rempartage Vesky. Circuler, il n'y a rien à voir. Vous en pensez quoi ?
Ben c'est pas possible.
Ben non, ils pourront pas. Ils pourront pas parce que.
C'est quand l'élection présidentielle ?
Ben non,
c'est dans 2 ans.
Ah, dans 2 ans, c'est en 2022 alors ?
Oui, 2022, oui.
Non, on fera la résistance jusqu'en 2022, il n'y a pas de souci. Et sans émoi, hein, pour le coup.
Hein non, mais franchement, oui, on se demande qu'est-ce qui reste comme crédit politique à M. Macron pour pouvoir faire sa réforme, ou est-ce qu'il pense vraiment que la réforme des retraites va lui amener un crédit politique ? Je veux dire, faut-il que la France soit devenue quand même un pays de vieux rentiers qui s'empresse d'aller dire il faut sucrer la retraite pour les jeunes qui arrivent parce que qu'attention hein, vous touchez à nos rentes quelque part.
Enfin, oui, non,
on
mais,
se demande
non mais c'est tout c'est bah, ce
notre patrimoine
là,
même pas notre rente
notre patrimoine, oui, notre patrimoine et nos rentes. Non mais tu as totalement raison dans ce raisonnement. Et ce qui est absolument hallucinant, c'est que ça va se fracasser avec la réalité sociale de la fermeture de plein de petites entreprises et moyennes entreprises qui, du fait que les banques n'ont absolument pas joué le jeu et essayé de sauver leurs capitaux et leurs avoirs, ben, vont s'en mettre encore plein les poches par la suite, quoi. Non, mais c'est absolument hallucinant.
Alors moi, j'aimerais venir sur un sujet qui n'était pas prévu, mais c'est un peu important, c'est que le port du masque, donc qui est obligatoire dans la rue, dans les entreprises, dans les écoles, a créé un certain nombre de problématiques quand même importantes, puisque nous avons, pour des raisons de calcul, hein, arithmétique presque, des enfants aujourd'hui, des collégiens et des lycéens, qui se retrouvent sans affectation parce que à cause du fait de la distance sociale dans les classes. Ils ont pas...
Sans affectation, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller à l'école ?
Ils ne peuvent pas aller à l'école. Sur Île-de-France, il y en a plusieurs centaines. Donc, ça pose un gros problème. Parce qu'en fait,
de la scolarisation
de ces enfants-là. C'est peut-être même ces décrocheurs qui sont peut-être
oui.
plus... Voilà.
Oui, tout à fait.
Donc, y a donc moi, je voulais juste avoir rapidement votre opinion sur cette obligation de porter les masques absolument partout. Parce que je trouve il y a eu tout un débat en Allemagne, tu sais, les gens qui étaient contre le
masque.
Alors,
en l'occurrence, c'est pas que le masque, c'est aussi peut-être la distance, oui, à respecter les normes sanitaires qui sont. Ben, écoute, là, je crois que dernièrement, il y a eu une école ou plusieurs écoles qui ont dû fermer parce que une des enseignantes avait été infectée, en fait. Et que, de fait, à partir du moment où elle a été en contact avec ses collègues, avec les enfants, on est obligé de mettre tout le monde en quarantaine.
Ça, c'est normal.
Ce qui est légèrement problématique, en fait, pour les parents, et pour l'enfant, hein, bien sûr, qui n'est pas scolarisé, et pour les parents qui doivent la garder. Après, moi, sur le port du masque, proprement dit, le fait qu'il soit imposé dans la rue, donc j'ai écouté Marchand l'autre jour, c'est pas qu'il y ait un risque de contamination dans la rue. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il y ait les policiers verbalisent les gens dans la rue, hein, dans les lieux privés. Oui, mais c'est encore revanche.
Si, verbalisent dans la rue.
Alors, je sais.
Juste un cas. Moi, j'ai vu un monsieur qui a retiré son masque pour fumer une cigarette.
Ouais, c'est interdiction de fumer, par contre.
Ah,
c'est
verbalisé.
Ah, oui, tout à fait. Mais c'est parce qu'il a fumé.
Oui, mais
parce qu'en fait, le fait de fumer fait qu'en fait, t'enlèves ton masque. Mais bon, pour là-dessus, c'est juste que, en fait, c'est une façon de faire en sorte d'habituer les gens, enfin, de mater les gens, donc, en l'occurrence, pour qu'ils le portent, pour qu'ils ne l'oublient pas. Et qu'ils le portent tout le temps, en fait. C'est-à-dire que quand ils sont dans un lieu confiné, ils le portent. C'est ça l'objectif. Voilà, donc c'est radical. Après, sur les mesures de distanciation sociale, le vrai problème, c'est que, franchement, hein, c'est par contact verbal, autour d'une discussion.
Oui, tout à fait.
Donc pour les enfants, bah, c'est ceux qui, d'une certaine façon, sont encore plus exposés que nous. En termes de contact, de proximité, voilà. En revanche, on connaît pas très bien si c'est. Enfin, il semblerait que des études montrent que c'est pas les jeunes enfants qui sont contagieux, contrairement à ce qu'on avait pensé au départ, mais plutôt des jeunes qui, des adolescents ou des jeunes qui s'approchent de l'âge adulte. Et donc, de fait, il y a pas de. On connaît suffisamment mal le virus pour voir réellement l'impact que ça a eu dans les classes. Mais évidemment, les classes ont toujours été un nid de transmission de microbes.
Oui, bien sûr.
Donc c'est forcément là que... Voilà.
Oui, mais ça n'empêche qu'il y a quand même beaucoup d'élèves qui n'ont pas d'infectation aujourd'hui, et donc ça pose un problème.
Alors ça,
quand même,
oui, c'est un problème. Mais enfin, les cours par correspondance, alors si... Voilà,
oui, oui, mais
ça pose aussi un problème au PSG.
Oui, voilà. Sur cette bonne parole de Zemmour, on va finir cette émission.
Je ne te permets pas, non.
Et je vous remercie de l'avoir suivi et je vous remercie les gars d'avoir fait avec moi. Je vous dis à bientôt, on fera une émission sur le logement et sur l'éducation, peut-être dans les prochains mois, et voir d'autres émissions, tout est ouvert. Vous êtes même capable de nous appeler pour nous dire si vous êtes intéressé pour y participer. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse tous. Ciao.
Bonsoir. Bonne soirée.